Chapitre 19. Lorsqu'un Fremen, trop longtemps, se trouve éloigné du désert, il meurt. Nous disons que c'est le mal de l'eau. Les commentaires de Stilgar.
Il est difficile pour moi de te demander cela, dit Alia. Mais je dois veiller à ce que les enfants de Paul héritent d'un empire. La régence n'a pas d'autre raison d'être.
Elle se détourna du miroir devant lequel elle était assise pour sa toilette matinale. Elle regarda son époux, mesurant la pénétration de ses paroles. En de pareils moments, il convenait de guetter ses réactions avec vigilance. Il ne faisait aucun doute qu'il était infiniment plus subtil et dangereux que le Duncan Idaho d'autrefois, maître d'armes de la maison des Atréides. Son apparence n'avait pas changé, ses traits restaient anguleux et sombres sous sa longue chevelure noire, mais durant toutes ces années, depuis qu'il avait quitté son état de Gola, il avait subi une profonde métamorphose intérieure. Comme tant de fois auparavant, Alia se demanda ce que la renaissance après la mort du Gola avait pu laisser comme marque dans le moi secret de Duncan. Avant que les Tleilaxu aient exercé sur lui leur science subtile, les réactions de Duncan avaient été frappées du sceau des Atréides. Loyauté, adhésion fanatique au code moral de ses ancêtres mercenaires, prompt au calme. Il s'était montré implacable dans sa vengeance contre la maison des Harkonnen, et il était mort en sauvant Paul. Mais les Tleilaxu avaient acheté son corps au Sardaukar, et dans leur cuve de régénération, ils avaient conçu un zombie Katrundo avec la chair de Duncan Idaho, sans aucun de ses souvenirs conscients. Il avait reçu l'éducation d'un Mentat avant d'être adressé comme présent à Paul, ordinateur humain, outil d'absolue précision, armé d'une compulsion hypnotique de meurtre dirigée contre son possesseur. La chair de Duncan Idaho avait résisté à cette compulsion, et dans cette terrible lutte, son passé cellulaire avait ressurgi. Alia avait décidé depuis longtemps qu'il était dangereux de songer à lui en tant que Duncan Idaho dans ses pensées intimes. Mieux valait le nommer par son nom de Gola. Hate. Infiniment mieux. Et il était essentiel que jamais il ne puisse entrevoir, aussi brièvement que ce soit, l'image du vieux baron Harkonnen, là, dans son esprit. Duncan, s'apercevant qu'Alia l'étudiait, se détourna. L'amour ne pouvait dissimuler les changements intervenus en elle, pas plus qu'il ne pouvait rendre opaques ses motivations. Les yeux de métal à facettes que les Tleilaxu avaient donnés à Duncan était d'une cruelle clairvoyance quant à la traîtrise. Il lui faisait maintenant apparaître Alia comme un être irradiant la méchanceté, presque masculin, et cette vision lui était insupportable.
« Pourquoi ne veux-tu pas me regarder ? » demanda-t-elle.
« Il faut que je réfléchisse, » dit-il. « Dame Jessica est une Atréide. »
« Et tu es loyal envers la maison des Atréides et non envers moi, n'est-ce pas ?»
Ne me prête pas des raisonnements aussi inconstants.
Alia pinça les lèvres. Avait-elle agi trop vivement? Duncan s'approcha de la lucarne par laquelle on pouvait observer un coin de la plaza. Les pèlerins avaient commencé de se rassembler, suivis par les marchands qui se pressaient autour comme des prédateurs encerclant un troupeau. Le regard de Duncan se fixa sur un groupe particulier. Ces gens-là se frayaient leur chemin d'un air décidé. Ils portaient des paniers en fibres d'épices et des mercenaires Fremen les suivaient, un pas en arrière.
Ils vendent des morceaux de marbre corrodés, dit Duncan en les désignant. Savais-tu cela? Ils les déposent dans le désert et les vents de sable les sculptent. Parfois les formes sont intéressantes. Ils disent que c'est une nouvelle forme d'art, très populaire, de véritables œuvres du vent de dune. J'ai acheté une de ces pièces la semaine dernière, un arbre doré à 5 branches. Gracieux, mais très fragile.
Ne change pas de sujet, dit Alia.
Je n'ai pas changé de sujet. C'est beau, mais ça n'est pas de l'art. Les humains créent l'art par leur violence propre, par leur seule volonté.
Il posa la main droite sur le rebord de la lucarne.
Les jumeaux détestent cette cité, et je crains de comprendre leurs motifs.
Je ne parviens pas à comprendre le rapport, dit Alia. Enlever ma mère n'est pas la supprimer. Elle sera sauve en étant ta prisonnière.
Cette cité a été construite par des aveugles, continua Duncan. Savais-tu que Leto et Stilgar ont quitté le siège Taber la semaine dernière et qu'ils se sont rendus dans le désert? Ils ont été absents toute la nuit.
On m'a rapporté cela. Ces babioles de marbre. Veux-tu que j'interdise leur vente?
Ce serait mauvais pour le commerce, dit Duncan en se retournant.
Sais-tu ce que Stilgar m'a répondu quand je lui ai demandé pourquoi ils étaient sortis? Il m'a dit que Leto souhaitait communier avec l'esprit de Muad Dib.
Alia ressentit soudain le froid de la panique, et elle riva son regard au miroir pour recouvrer son calme. Jamais Leto n'aurait quitté le siège de nuit pour une raison aussi absurde. Avait-elle donc affaire à une conspiration? Idaho leva une main devant ses yeux pour oblitérer l'image de son épouse. Stilgar a ajouté qu'il a accompagné Leto parce qu'il continue de croire en Muad Dib.
Bien sûr qu'il continue d'y croire.
Idaho eut un rire bizarrement creux. Il prétend qu'il continue d'y croire parce que Muad Dib prenait toujours le parti des petites gens.
Que lui as-tu répondu, toi?
Demanda Alia, et sa voix ne pouvait cacher sa peur. Il baissa la main.
Je lui ai dit, cela te range parmi les petites gens. Duncan, voilà un jeu dangereux. En harcelant ce naïb des Fremen, tu pourrais bien éveiller une bête qui nous détruirait tous.
Il continue de croire en Muad Dib. C'est notre protection.
Qu'a-t-il répondu ensuite?
Qu'il savait qui il était.
Je vois.
Non, je ne crois pas que tu vois. Les choses qui mordent ont les dents plus longues que Stilgar.
Je n'arrive pas à te comprendre aujourd'hui, Duncan. Je te demande d'accomplir une chose importante, vitale. Pourquoi tout ce verbiage?
Elle semblait si irritée. Duncan revint à la lucarne. Lorsque j'ai reçu l'éducation de Mentat, c'est très difficile, Alia, de comprendre comment fonctionne ton propre esprit. On t'apprend d'abord que tu dois laisser ton esprit fonctionner par lui-même. C'est très étrange. Tu peux faire jouer tes muscles, les exercer, les développer. Mais l'esprit ne dépend que de lui-même. Quelquefois, quand tu as réussi à apprendre cela, il te montre des choses que tu ne désires pas voir.
Et c'est pour cela que tu as voulu insulter Stilgar?
Stilgar ne connaît pas son esprit. Il ne le laisse pas libre.
Sauf pour les orgies d'épices.
Même pas. C'est ce qui fait de lui un naïb. Il est un chef, il contrôle et limite ses réactions. Il fait ce que l'on attend de lui. Lorsque tu sais cela, tu connais vraiment Stilgar et tu peux mesurer la longueur de ses dents.
C'est ainsi que font les Fremen. Eh bien, Duncan, feras-tu ce que je te demande? Il faut l'enlever et que l'on croit que la maison de Corino est derrière cela.
Il demeura silencieux, soupesant le ton de sa voix et les arguments qu'elle invoquait avec ses facultés de Mentat. Ce plan pour l'enlèvement de Dame Jessica révélait une cruauté et une froideur dont les dimensions, tout soudain, le choquaient. Ainsi, Alia mettait en jeu la vie de sa propre mère pour les raisons qu'elle avait avancées? Non, elle mentait. Peut-être les bruits qui couraient à propos de Javid et d'Alia étaient-ils fondés. À cette pensée, il ressentit comme un aiguillon de glace au creux de son estomac.
« Tu es le seul en qui je puisse avoir confiance, » dit Alia.
« Je sais. » Elle prit ces simples mots pour un assentiment et sourit à son image dans le miroir. « Tu sais, » reprit Idaho, « le Mentat apprend à considérer chaque être humain comme une chaîne de relations. » Elle ne répondit pas. Elle s'était assise et un souvenir lui revenait. Ses traits étaient vides tout à coup. Idaho, l'observant par-dessus son épaule, vit son expression. Il frissonna. Alia semblait en communion avec des voix intérieures. « Des relations, » murmura-t-il. Et il songea, « On doit se débarrasser de ces vieilles souffrances comme le serpent se débarrasse de sa peau pour en acquérir de nouvelles et accepter leurs limites. C'est la même chose pour les gouvernements, même la régence. Les gouvernements anciens sont comme autant de mues abandonnées. Ce plan doit être exécuté, mais pas ainsi que me l'ordonne Alia. »
Haussant les épaules, Alia dit enfin, « Leto ne devrait pas sortir ainsi en ce moment. Je le réprimanderai.
Pas même avec Stilgar?
Pas même avec lui.
Elle se leva, s'approcha d'Idaho et posa une main sur son bras. En elle, quelque chose le révoltait. Il réprima un nouveau frisson, se réfugia dans une brève évaluation mentate. Il y avait quelque chose en elle. Il ne parvenait plus à la regarder vraiment. Le parfum du mélange de son maquillage parvenait à ses narines. Il s'éclaircit la gorge.
« Aujourd'hui, dit-elle, il faut que j'examine les présents de Faradin. »
« Les vêtements ?»«
Oui. Ce qu'il fait ne correspond jamais aux apparences. Et il ne faut pas oublier que son bachar, Tiekanik, est un adepte du Shaomurki, du Shomas et autres subtilités dans l'art du régicide. »
« Le prix du pouvoir, » dit Duncan en s'écartant. « Mais nous sommes mobiles, et Faradin ne l'est pas. » Elle étudia son profil acéré. Parfois, il lui était difficile d'imaginer ses pensées. Croyait-il que la liberté d'action engendrait la puissance militaire? Ma foi, l'existence sur Arrakis était depuis trop longtemps tranquille. Les gens jadis en éveil par des dangers permanents dégénéraient au repos.
« Oui, » dit-elle, « nous avons encore les Fremen. »
« La mobilité, » répéta Duncan. « Nous ne pouvons dégénérer en une armée d'infanterie. Ce serait de la folie. »
Irritée, elle dit, « Faradin usera de tous les moyens pour nous détruire. »
« Nous y voilà. Voilà une forme d'initiative, une mobilité que nous n'avions pas autrefois. Nous avions un code. Le code de la maison des Atréides. Nous achetions toujours notre passage et laissions à l'ennemi le rôle de pillard. Cette restriction ne tient plus, bien entendu. Nous sommes aussi mobiles l'un et l'autre, la maison des Atréides et la maison de Corino.
Nous écartons ma mère du pouvoir pour la mettre hors de danger autant que pour toute autre raison, dit Alia. Nous vivons toujours selon le code.
Duncan baissa les yeux sur elle. Elle connaissait le danger qu'il y avait à inciter un mentat à la réflexion. Ne voyait-elle donc pas à quoi il était parvenu? Pourtant, il l'aimait encore. Il passa la main devant ses yeux, elle paraissait si jeune. Dame Jessica avait raison, Alia donnait réellement l'impression de n'avoir pas vieilli d'un jour depuis le temps qu'ils vivaient ensemble. Elle possédait la douceur de trait de sa mère Bene Gesserit, mais ses yeux étaient ceux d'une Atréide, calculateur, impérieux, dominateur. Et maintenant, une chose, rusée et cruelle, semblait guetter au fond de ses yeux. Idaho avait servi la maison des Atréides trop d'années pour ne pas en connaître les faiblesses aussi bien que les forces. Mais cette chose qu'il percevait chez Alia. Oui, cette chose était nouvelle. Les Atréides étaient capables de duplicité envers leurs ennemis, mais jamais envers leurs alliés ou leurs amis, et certainement pas avec la famille. C'était une racine de la morale des Atréides. Soutiens ton peuple au mieux de tes capacités. Montre-lui combien l'existence est meilleure sous la bannière des Atréides. Donne la preuve de ton amitié par la sincérité de ton comportement. Mais ce qu'Alia demandait maintenant n'était pas d'une Atréide. Duncan le sentait dans toute sa chair, par chacun de ses nerfs. En cet instant, il n'était plus qu'un détecteur vivant qui enregistrait l'attitude nouvelle et étrangère d'Alia. Brusquement, son sensorium mentat s'établit au plus haut niveau de perception, et son esprit bascula dans la transe glacée où le temps n'existait pas, où seule était la computation. Alia comprendrait aisément ce qui advenait en lui, mais il n'y pouvait rien. Il s'abandonna à la computation mentat. Computation. Il y avait dans la conscience d'Alia un reflet de Dame Jessica qui vivait une pseudo-vie. Il perçut ce reflet aussi nettement que celui du pré-Gola Duncan Idaho, qui demeurait une constante de sa propre conscience. Alia possédait cette conscience parce qu'elle était une pré-née. Lui, Duncan, l'avait acquise dans les cuves de régénération Tleilaxu. Pourtant, Alia rejetait ce reflet, mettait la vie de sa mère en question. Donc elle n'était pas vraiment en contact avec cette pseudo-Jessica qui se trouvait en elle. Donc, elle était totalement possédée par une autre pseudo-vie qui excluait toutes les autres. Possédée, aliénée, abomination. Parce qu'il était Mentat, il accepta cela et examina d'autres facettes du problème. Tous les Atreides étaient présents sur cette unique planète. La maison de Corino oserait-elle attaquer depuis l'espace? L'esprit de Duncan passa en revue, en un éclair, tous les accords qui avaient mis fin aux formes primitives de conflits armés. 1. Toutes les planètes étaient vulnérables à une attaque spatiale. Ergo, tous les dispositifs de représailles vengeance devaient être scis hors planète par chaque maison majeure. Faradine devait parfaitement savoir que les Atreides n'avaient pu omettre cette précaution élémentaire. 2. Les boucliers énergétiques constituaient un moyen de défense absolue contre les projectiles et explosifs de type non atomique, et c'était la raison première du retour à des formes de combat au corps à corps. Mais l'infanterie avait ses limitations. Il était possible que la maison de Corino eût reconstitué les Sardaukars tels qu'ils étaient avant la bataille d'Arrakeen, mais ils ne pouvaient être à la mesure de la joyeuse cruauté des Fremen. 3. Le féodalisme planétaire se trouvait constamment exposé aux dangers venant d'une vaste classe de techniciens, mais les effets du djihad butlérien tempéraient encore les excès technologiques. Les Tleilaxu, Ixiens et quelques autres mondes dispersés des marches constituaient à cet égard la seule menace. Et ces mondes étaient tout aussi vulnérables que les autres au courroux de l'ensemble de l'Impérium. Le djihad butlérien ne serait pas défait. La guerre mécanisée requérait une importante classe technicienne. L'Impérium des Atreides avait canalisé cette force sur d'autres voies. Aucune classe à haute technicité n'échappait à sa vigilance. Et l'Empire demeurait résolument féodal, naturellement, puisque c'était là la meilleure forme de société qui fut lorsqu'il s'agissait d'essaimer par-delà les frontières lointaines et mal connues, vers des mondes nouveaux. Duncan eut conscience du scintillement de sa perception mentate, transperçant les strates de souvenirs qui lui étaient propres, totalement imperméables au passage du temps. Il atteignit une conviction. La maison de Corino ne se risquerait pas à une attaque atomique illégale. Le chemin de la décision, la computation éclair, l'avait conduit à cette certitude, mais dans le même temps, il était absolument conscient des éléments qui étayaient sa conviction. L'Impérium contrôlait autant d'armes nucléaires et assimilées que toutes les grandes maisons réunies. La moitié au moins de ces dernières réagirait sans réfléchir si la maison de Corino violait la convention. Le dispositif de représailles des Atreides, si hors planète, serait soutenu par une force écrasante sans qu'il soit besoin de battre le banc. La peur seule suffirait à rameuter les autres maisons. Salusa Secundus et ses alliés s'évanouiraient en nuages torrides. Non, la maison de Corino ne courrait pas le risque d'un tel holocauste. Elle était certainement très sincère lorsqu'elle soutenait la thèse qui voulait que l'arme atomique fût gardée en réserve à une seule fin, défendre l'humanité contre la menace d'une éventuelle intelligence étrangère que nul n'avait rencontrée jusque-là. Les pensées de computation avaient des bords nets, un relief aigu. Elles ne recelaient aucune zone intermédiaire floue. Alia avait choisi l'enlèvement et la terreur parce qu'elle était devenue étrangère, non Atreide. La maison de Corino était une menace, mais une menace qui ne correspondait nullement au tableau qu'Alia en avait donné devant le conseil. Si elle voulait écarter Dame Jessica, c'était uniquement parce que l'intelligence pénétrante de la Bene Gesserit avait découvert ce qui ne lui était, à lui, apparu clairement qu'à l'instant. Idaho s'arracha à la transmentate et découvrit Alia, immobile devant lui, l'observant avec une expression froide et calculatrice. « Ne préférerais-tu pas faire assassiner Dame Jessica ?» demanda Duncan. L'éclair étranger de sa joie filtra entre ses paupières avant d'être éteint par le faux rideau de l'outrage. « Duncan !» Oui, cette Alia étrangère préférait le matricide. Tu as peur de ta mère, et non pour ta mère, dit-il. Lorsqu'elle lui répondit, il n'y eut pas le moindre changement dans son regard. Oui, j'ai peur. Elle a fait son rapport sur moi aux sœurs. Que veux-tu dire?
Est-ce que tu ignorerais donc ce qui tente par-dessus tout une Bene Gesserit ?
Elle se rapprocha de lui, l'observa entre ses cils, soudain séductrice.
Mon seul désir était de demeurer forte et vigilante pour le bien des jumeaux.
Tu parles de tentation, remarqua Duncan, et il y avait la froideur du mentat dans sa voix.
C'est ce que les sœurs dissimulent le plus profondément, ce qu'elles redoutent avant tout. C'est pour cela qu'elles m'ont appelée abomination. Elles savent que leurs inhibitions ne suffiront pas à me retenir. La tentation. Mais non, elles parlent avec emphase. Elles disent la grande tentation. Tu vois, nous autres qui employons les enseignements Bene Gesserit, nous pouvons influer sur des choses telles que l'équilibre interne des enzymes dans nos organismes, ce qui peut prolonger notre jeunesse plus encore que le mélange. Discernes-tu les conséquences que cela pourrait avoir si les Bene Gesserit se livraient à cela? Chacun pourrait le remarquer. Je suis certaine que tu peux mesurer l'exactitude de mes propos. C'est le mélange qui fait de nous la cible de tant de complots. Nous avons le contrôle d'une substance qui prolonge la vie. Qu'adviendrait-il si l'on venait à apprendre que le Bene Gesserit détient un secret plus important encore? Tu vois, aucune révérende mère ne serait plus en sûreté. L'enlèvement et la torture des sœurs deviendraient une pratique courante.
Tu es parvenu à cet équilibre des enzymes, dit Duncan.
Et c'était une constatation, non une question.
J'ai défié les sœurs. Les rapports que ma mère enverra aux sœurs feront des Bene Gesserit les alliés inconditionnels de la maison de Corino.
C'est très plausible, pensa Duncan. Mais il est certain que ta mère ne se tournerait pas contre toi.
Elle a été une Bene Gesserit longtemps avant d'être ma mère. Duncan, elle a accepté que son fils, mon frère, soit soumis à l'épreuve du Gomjabar. Elle l'a organisé et elle savait qu'il pourrait ne pas y survivre. Les Bene Gesserit ont toujours eu peu de foi et beaucoup de pragmatisme. Elle se retournera contre moi si elle pense qu'il y va de l'intérêt du Bene Gesserit.
Il acquiesça. Oui, Alia était si convaincante, songea-t-il avec tristesse.
Nous devons conserver l'initiative, reprit-elle. C'est notre meilleure arme.
Il y a le problème de Gurney Alec.
Faudra-t-il que je tue mon vieil ami? Gurney est parti en mission d'espionnage dans le désert.
Il ne nous gênera pas, répondit-elle, sachant pertinemment que Duncan était déjà au courant. Très bizarre. Le gouverneur régent de Caladan exécutant des missions ici sur Arrakis.
Pourquoi pas? Il est son amant. Sinon en fait, du moins dans ses rêves.
Oui, bien sûr, admit Duncan, et il se demanda si elle décelait le mensonge dans sa voix.
Quand comptes-tu l'enlever?
Il vaut mieux que tu ne le saches pas.
Oui, je vois. Et où l'emmèneras-tu?
Là où on ne pourra pas le retrouver. Sois certaine qu'elle ne sera plus une menace pour toi.
Il lut nettement la joie dans ses yeux.
Mais où vas-tu?
Si tu l'ignores, tu ne pourras le révéler à un diseur de vérité. Tu diras que tu ne sais rien.
Ah, très habile, Duncan.
Maintenant, elle croit vraiment que je vais tuer Dame Jessica, se dit-il. Au revoir, ma bien-aimée. Elle ne comprit pas ce qu'il y avait de définitif dans sa voix, et elle l'embrassa furtivement lorsqu'il la quitta. Et tandis qu'il suivait les couloirs du labyrinthe du temple, pareil à ceux d'un siège, Idaho se frottait les yeux. Car même les yeux de Tleilaxu ne sont pas immunisés contre les larmes.